À votre santé. Eh bien, voici la 137e émission de l'Association citoyenne pour un centre de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Au micro, Hélène Mazur, en compagnie de...
Daniel Cléo
et Christian Max.
Et aujourd'hui, nous allons aborder, comme d'habitude, quelques questions d'actualité sur notre état de santé global et sur notre système de santé, mais aussi, comme ma foi, c'est aussi l'actualité de parler des projets, programmes présidentiels, et bien de ce que propose notre Fédération nationale des centres de santé et dans quel esprit c'est proposé. Eh bien, donc, on commence par l'actualité. Je crois que tu as encore des chiffres à nous donner,
Christian.
Et oui,
donc, les nouvelles du front, le taux d'incidence nationale relevé donc aujourd'hui à 14h est de 1337 sur Covid Tracker, je précise. C'est en hausse. Le taux de reproduction est de 1,33, c'est en hausse. Le taux d'hospitalisation, par contre, lui, n'a pas changé depuis la semaine dernière. Il est toujours à 30%. Le nombre de personnes en soins critiques, lui aussi, reste stable. Il a diminué de quelques unités. Et le nombre de décès donc quotidiens est légèrement en hausse également, au niveau national. Alors, dans l'Oise, chez nous, donc, le taux d'incidence il est de 1009, donc inférieur au taux national. Le taux d'hospitalisation est de 14%, en forte baisse.
Bon, bonne nouvelle pour les hospitaliers en souffrance.
Oui, mais par contre, il y a 275 hospitalisés en soins critiques, enfin, non, hospitalisés tout court, hein, je dis une bêtise, et là, c'est en hausse. Le nombre de décès de réanimation, décidément, il est en baisse, par contre.
D'accord.
Et aucun décès quotidien la semaine dernière. Oui. Et la tranche d'âge la plus touchée, bah, sans surprise, sont les 10-19.
Ah oui, alors je crois que toi, tu as encore des éléments, toi, Daniel, sur les plus touchés et sur...
Sur les élèves, oui, il y a eu quand même encore un redémarrage pour les élèves. Dans l'Académie d'Amiens, sur les 7 jours, il y a eu 3900 élèves positifs, plus de 150 en une semaine. Sur les élèves, sur le personnel enseignant et para-enseignant, il y a eu 500 personnes contaminées en plus, soit 200 personnes en plus. 500 personnes contaminées, ce qui fait 200 personnes en plus par rapport à la semaine précédente.
D'accord.
Voilà, chez les enseignants et para-enseignants. Donc ça monte, ça monte, ça monte.
Ça confirme bien.
Oui.
Alors comment expliquer ces chiffres contradictoires?
Oui. Mmh.
Eh bien, je me suis penché sur un entretien accordé par le professeur Karine Lacombe, qui est infectiologue et chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui nous répond là-dessus. Alors, première chose, elle dit « La vaccination massive a eu un impact majeur. Même si le vaccin protège moins d'Omicron, il a tout de même une diminution de la transmission chez les personnes vaccinées. » Et entre les personnes triplement vaccinées et celles qui sont doublement, il y a moins d'hospitalisation et de déchets chez les premières. L'immunisation se développe aussi suite à une infection. Voilà. Alors donc, qui se retrouve à l'hôpital, finalement ce sont majoritairement des personnes très âgées et immunodéprimées. Alors pour les premières, il s'agit de patients qui étaient déjà en situation de fragilité. Les secondes sont des personnes qui n'ont pas pu être protégées par la vaccination ou les anticorps monoclonaux. Et ces deux publics fragiles sont également sensibles à la plupart des autres viroses respiratoires.
Voilà, donc c'est déjà, voilà, on le dit, personnes sensibles, personnes fragiles, qui ont déjà des problèmes de santé, on va dire. Voilà.
Oui, ça les achève, quoi.
Pour nos potaches, on peut dire qu'en plus de la Covid qui est toujours en train de ramper, il y a la grippe qui a déboulé également, plus les gastro-entérites. Voilà, donc nos élèves ont des soucis multiples.
Alors pourquoi la grippe? Eh bien, le professeur Lacombe, là aussi, nous donne une clé d'explication. Il semble en effet que la composition du vaccin mis sur le marché au mois d'octobre dernier ne soit pas optimale. Donc, on sait que le virus de la grippe mute beaucoup. Et apparemment, les mutations qu'on a cette année échappent au schéma vaccinal qui était celui de l'an dernier.
En plein dedans.
Donc, voilà. Alors, on parle aussi d'une risque de, d'une co-infection grippe-Covid et le professeur Lacombe dit que c'est un phénomène marginal.
D'accord. Bon, d'accord. Donc voilà, les virus nous font la guerre, hein, il n'y a pas à dire.
Et nous, on fait la guerre aux virus également.
On a augmenté les protections, on est dans une autre situation qu'il y a un an, mais on n'est pas au bout, n'est-ce pas ?
On n'est pas au bout, mais avec les mêmes chiffres qu'on a en ce moment, la situation de l'année dernière, les hôpitaux seraient complètement débordés.
Ouais, ouais,
d'accord.
Ouais.
Donc la vaccination, on ne peut pas dire qu'elle a servi à rien. Hein.
Voilà, ouais. D'accord. Bon, ça nous rassure, ça veut dire qu'on n'est pas démunis, mais que ce n'est pas parfait. Non, on va dire ça comme ça.
Il faut rester prudent.
Il faut être vigilant.
Voilà. Alors, je voudrais continuer, moi.
En mars, il y a eu un décès dans l'Oise, c'est tout. Enfin, bon. C'est déjà beaucoup, mais c'est un décès par rapport aux chiffres qu'on avait avant. Voilà.
Bon, voilà, tout ça confirme ce qu'on vient de dire. Donc, on est quand même dans une phase globale d'amélioration, mais qui n'est pas à 100% parfaite.
Non,
voilà.
Non.
Alors, on va parler un petit peu de sujets d'actualité en rapport avec le fait de se soigner les soignants dans notre région, pour voir en face, finalement, qu'est-ce qui serait pertinent pour redonner la santé à notre système de santé. Alors, je voudrais d'abord dire quelque chose. Moi, j'ai une maman âgée. J'ai dû chercher pour elle dans différents centres de radiologie pour avoir un rendez-vous le plus tôt possible parce qu'elle avait énormément souffert d'un problème. Et c'était très difficile de trouver un rendez-vous. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais c'est surtout que je me suis aperçue dans un service qu'on appelle d'imagerie, hein, maintenant, d'imagerie et de radiologie, d'un hôpital de notre département, eh bien, tous les médecins, praticiens, hospitaliers, c'était des noms de praticiens étrangers. Tous. Oui, Christian,
les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps se rappellent peut-être que j'avais rencontré, si j'ose dire, un centre de santé à Coucy-le-Château. Quand j'ai regardé le nom du médecin, ben visiblement, ce n'était pas un pur Picard. C'était Madame Maya Pézout.
Voilà.
Qui parle très bien français, à part ça, mais bon.
Ah oui.
Elle n'a pas fait ses études à Amiens, quoi.
Voilà.
Ou à Bobigny.
Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils sont indispensables à notre système de santé.
S'ils n'étaient pas là, ben, on fermerait pas mal d'hôpitaux.
Et moi, on me l'a dit, hein, c'est un médecin hospitalier qui me l'a dit, sans nos collègues étrangers, il y a un bon paquet. D'hôpitaux de proximité qui seraient fermés. Donc merci, bien qu'ils doivent manquer dans leur pays,
absolument,
certainement.
Absolument.
Hein, ça, c'est pas, je pense que ce n'est pas un bon point pour la France d'avoir besoin des compétences de personnes qui ont demandé des années de formation et donc d'investissement dans leur pays. Et que ce soit après, dans notre pays, que, disons, on profite, entre guillemets, de leurs compétences. Mais voilà, donc, on voudrait dire dans le débat actuel qu'il y en a qui feraient mieux de se taire plutôt que d'avancer des idées qu'il faudrait se débarrasser de ces personnes dont le nom n'a pas la même consonance que dans notre langue. Je crois que c'est non seulement, insupportable, mais en plus, c'est absurde, ça nous mettrait en difficulté.
Irréalisable, oui, bien sûr.
Et pour terminer, les centres de santé, je voudrais le redire, sont ouverts à toute personne, quelle que soit son origine, son statut, etc. Donc, nous restons fidèles à l'éthique des centres de santé.
Oui, le point de vue de l'historien aussi, c'est quand on fait des enquêtes, quand on demande aux gens de retracer un peu leur généalogie, des étrangers, on en trouve très vite.
Bien sûr.
Et y compris en Picardie.
Oui.
Et donc, dans notre petit tour de la région, on a vu qu'il y avait, par exemple, à l'hôpital de Saint-Quentin, toute une enquête sur les personnels d'hôpital épuisés. Et même dans l'établissement qui accueille les personnes âgées, donc l'EHPAD, qui dépend de l'hôpital, il y a une grève depuis plus d'un mois, quand même, des personnels, parce que il y a une pression insupportable. Et donc, ils ne peuvent pas faire leur travail correctement avec les personnes âgées. Et l'actualité a montré qu'il y en a qui sont vraiment maltraités, finalement. Et ces personnels, en plus, sont complètement, dévalorisés. Ils font un travail extrêmement précieux pour les vies humaines. Et ils sont dans des conditions épouvantables. Donc, il y avait cette actualité-là. Et également, au CHU d'Amiens, il y a eu l'interview du chef adjoint d'un service de réanimation. Pareil. Il dit que les personnels sont fatigués à force de travail, travail qui est à effectif réduit. Tout le monde en a entendu parler. La situation s'aggrave, se dégrade depuis 10 ans, dit-il, 10 ans, avec des suppressions de lits et des professionnels en souffrance, ce qui fait que la profession est de moins en moins attractive et ça entraîne la dégradation.
Plus de recrutement, etc.
Voilà. Pratiquement. Il dit, nous n'arrivons plus à recruter.
Voilà.
Nous n'arrivons plus à recruter. Et alors, ce qui est très intéressant... Oui, Christian, tu y as rajouté quelque chose.
Oui, c'est la conséquence d'une politique menée depuis une bonne vingtaine d'années. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a demandé à des gens qui ne connaissent rien au service public de réorganiser le système de santé en France. Tout le monde a entendu parler de l'affaire McKinsey, mais ça n'est pas le seul cabinet de conseil qui a œuvré. Donc apparemment, ces gens-là considèrent que la santé... C'est la même chose que de vendre des chaussettes ou des voitures.
C'est une marchandise.
Donc, je crois que la Fédération nationale des centres de santé, elle a autre chose à proposer.
Complètement. Et tout le monde ne sait peut-être pas forcément ce qu'a fait McKinsey et par qui il a été recruté.
Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont oublié de payer leurs impôts, mais bon...
Déjà. Puis ça a coûté 1 milliard à l'État français.
Voilà, et qu'il il a été recruté pour, comme tu l'as dit...
Faire des études.
Voilà, organiser le système de santé. Et donc, toujours notre chef adjoint du CHU d'Amiens, en fin d'interview, il dit, écoutez, puisqu'on lui pose la question qu'il y a eu des mesures de prise, etc., est-ce que ça... Il dit, mais attendez, c'est que des actions ponctuelles. Il n'y a aucun traitement... De la globalité du problème, il y a un traitement systémique de tout le système de santé.
Et, répète le mot, Hélène, il est joli. Un système...
De santé.
Le mot systémique.
Oui, oui.
Voilà, ça, on en entend plein les oreilles de ça, voilà.
Eh bien, oui, ça veut dire qu'il faut prendre les choses globalement et pas par un petit bout.
Voilà, voilà.
Et donc, plus, il parle de l'enveloppe fermée. Les hôpitaux, ils doivent tout gérer avec une enveloppe qui a été votée par dispatchée par l'ARS, mais votée par l'Assemblée nationale, alors que les dépenses de santé globalement augmentent. Donc, si elles augmentent, ça veut dire qu'il y en a qui empochent quelque chose. Je pense que ce n'est pas les hôpitaux, mais plutôt les systèmes privés et les labos. Donc, comme tu disais, Christian, justement, c'est la même vision que celle que vient de dire cet adjoint du CHU d'Amiens, notre fédération.
Centre hospitalier universitaire.
Oui.
Voilà.
Oh, parle bien.
Et donc, ce que dit notre fédération, c'est qu'il faut avoir une vision systémique,
voilà,
c'est-à-dire globale, du système de santé, au niveau de la prévention, de l'action sur les déterminants de santé, le maillage du territoire, avec un exercice qui soit regroupé et coordonné, pour qu'il y ait un accès équitable aux soins sur tous les territoires. Et donc, ça commence par un premier point qui te tient à cœur,
Oui, oui, c'est surtout ne pas essayer d'opposer médecine libérale et médecine salariée et ne pas s'embarquer dans le débat obligation d'installation ou pas.
Voilà. Parce que la solution qui est proposée par notre Fédération des centres de santé, elle dépasse, elle ne prend pas par le petit bout de la lorgnette un petit morceau du problème, elle le prend globalement. Et son premier objectif, c'est de développer un maillage national du territoire avec des structures de santé et à partir d'un service public global. Et on a un exemple.
Un exemple remarquable, c'est le département de la Saône-et-Loire.
Voilà.
Puisque, rappelle-le, Christian.
Eh bien, tout le département est maillé de centres de santé et d'antennes.
Grâce
à l'action du département.
Voilà, un département œuvré pour son territoire. Eh bien là, ce que propose notre fédération, c'est d'œuvrer pour l'ensemble du territoire français. Et en insistant bien que sur la médecine de premier recours, c'est-à-dire les médecins généralistes.
Généralistes, oui.
Hein, c'est ce à quoi les centres de santé s'occupent prioritairement. Il parle aussi dans son... Donc ce dont je vous fais part, en fait, ce sont des éléments qui ont été envoyés dans une adresse à tous les candidats et candidates à la fonction présidentielle, sauf ceux qui, évidemment, ont une éthique opposée à celle des centres de santé, qui, comme je l'ai dit, accueillent toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, et ne veulent pas refuser les soins à certaines personnes. Donc voilà, vous me comprendrez. Et donc... Il parle aussi de doter les citoyens et les décideurs politiques d'un outil qui ne toucherait pas la liberté d'installation, c'est ce qu'on a dit, mais ça veut dire que ça va se faire dans le temps, si vous voulez. Un outil, vous voyez, les citoyens, nous, notre association, elle pourrait peut-être s'emparer de l'outil en question pour faire avancer les choses, hein, parce qu'on doit ramer quand même, hein, pour faire avancer. Voilà, donc c'est un pari que finalement... avec un système de santé rééquilibré et qui pourra donc graduellement donner plutôt des soins gradués, c'est-à-dire en fonction de la gravité, entre la ville et l'hôpital. Donc on vous a parlé souvent de l'hôpital, chers amis auditeurs, auditrices d'RVM, parce que c'est très lié, la médecine de ville et de l'hôpital.
La médecine de ville, c'est la base. Si on enlève la base, tout ce qu'il y a au-dessus s'écroule.
Tout s'écroule, oui.
Voilà. Et les médecins de ville, ils ont besoin de l'hôpital.
Oui.
Des hôpitaux.
La pharmacienne de Baie, quand on a fait la réunion dans ce village, elle nous a bien précisé que si jamais il n'y a plus de médecin à Baie, elle se demande ce que va devenir son officine.
Bien sûr.
Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis auditrices, auditeurs, notre émission se termine. Nous vous rappelons que vous pouvez nous réécouter le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, et bien entendu en podcast. Et je peux vous dire, quand on relit la liste des podcasts, comme je l'ai faite récemment, eh bien, on a une grande variété de sujets. Vous pouvez, vous revenir en arrière. C'est encore valable sur bien des points. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.
Au revoir.